Pépins et compagnie, arbres fruitiers, fruits en bio. On est au pied de Comblaval à Saint-Laurent-en-Royans. Et pour en parler, bien, nous sommes avec Rudy Magne. Rudy, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors Rudy, déjà, d'où vous est venue l'idée de planter des arbres fruitiers et de proposer aussi de la vente de fruits en bio à Saint-Laurent-en-Royans?
Donc du coup, je me suis installé dans la région avec ma compagne là, il y a 6-7 ans. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à jardiner et je me suis passionné pour le jardinage. Donc là, c'était plutôt du légume à cette époque-là. Et du coup, on s'est pas mal intéressé à tout ce qui est, enfin, au niveau alimentation, à s'approvisionner en local, en circuit court et tout ça. Et donc, n'étant pas issu du monde agricole, en fait, au début, c'était pour moi un peu irréaliste de m'installer. Enfin, je l'envisageais même pas. Et justement, avec ce développement des circuits courts, etc., et du coup, d'une agriculture avec des surfaces un peu plus petites, je me suis dit, c'est peut-être possible. Et c'est comme ça qu'a germé la possibilité de pouvoir éventuellement m'installer en tant qu'agriculteur, quoi.
Et vous êtes formé, que faisiez-vous avant d'être agriculteur et d'avoir le statut, alors, si je comprends bien?
Alors avant d'être agriculteur, j'étais océanographe, donc en fait j'étudiais les vagues, enfin la prévision des vagues, donc j'étais en Bretagne à l'époque, en tant que chercheur en fait.
Et vous êtes formé donc depuis entre-temps à l'arboriculture en particulier?
Oui, donc du coup je me suis formé on va dire en partie autodidacte en allant visiter plein d'agriculteurs, de livres, etc. Mais aussi de manière académique à Bourg-les-Valence, là au Valentin. Donc du coup j'ai suivi un cursus donc, qui s'appelle le BPREA en arboriculture. Donc c'est une formation sur un an dont l'objectif c'est de s'installer en agricole en fait, quoi.
Et pourquoi le Royans? C'est quand même très différent de la Bretagne.
Alors
pourquoi pas?
Alors pourquoi le Royans en fait? Du coup on a habité pas mal de temps en Bretagne. Et en fait, on était passionnés d'escalade et on est venu dans le Royans en partie pour l'escalade et pour la nature, pour le climat aussi, voilà.
Et l'accueil a été favorable. Alors là, si on revient vraiment sur l'aspect non pas personnel mais professionnel, un nouvel agriculteur qui s'installe en fruits, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de fruits dans le Royans. Comment a été perçu l'accueil à la fois par les habitants et par les autres professionnels du milieu agricole?
Par les habitants, ça c'est enfin, très 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 positivement. Du coup, quand les gens ils m'ont vu commencer à planter là il y a 2 ans le verger, ils s'arrêtaient, ils me demandaient qu'est-ce que je faisais. Ils étaient surpris que je plante autre chose que des noyers et donc ils étaient super contents. Après, par le monde professionnel, du coup, enfin le monde agricole. Donc moi je le connaissais pas du tout. Ma première interaction c'était la recherche de foncier. Et donc c'est pas facile de trouver du foncier. J'ai eu la chance dans mon parcours de recherche de rencontrer Fernand Faure, là, qui est un agriculteur qui est parti à la retraite, qui avait à cœur d'installer des nouveaux agriculteurs, et pas forcément issus du milieu agricole ni de la région, parce que moi j'étais ni l'un ni l'autre. Et donc du coup il m'a un peu pris sous son aile et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. À l'époque j'avais pas beaucoup de relations avec les autres agriculteurs de la région. Et puis maintenant, petit à petit, voilà, je commence à connaître les gens. Il y a pas de problème. Enfin, ça se passe bien avec le monde agricole ici, quoi.
Et notamment, j'imagine peut-être pour la vente de fruitiers ou de fruits, quels sont vos circuits pour écouler vos productions?
Alors, du coup, pour la vente de fruits, donc là, c'est tout récent parce que donc j'ai planté le verger il y a 2 ans. Là, j'ai les premières pommes qui sont arrivées il y a 2 semaines. J'ai commencé les ventes à la ferme des Roussets, au marché de la ferme des Roussets, le vendredi soir la semaine dernière. Donc voilà, et je vais continuer pendant peut-être 2 semaines, le temps d'avoir écoulé mes stocks, qui sont petits parce que c'est le début. Donc mes circuits de vente, ça sera bon pour le verger, donc pour la partie fruits, ça sera vraiment sur le territoire Royans-Vercors, c'est un petit peu l'idée. Donc avec pas des grosses productions, mais qui soient bien échelonnées, que ce soit au niveau des espèces. Donc j'essaye d'avoir le plus possible d'espèces qui sont adaptées au Royans. Et je fais aussi des espèces qui sont un peu limites, mais que je pousse un petit peu comme les pêches. Voilà.
Limite au niveau de la météo?
Limite surtout, ouais, au niveau du gel de printemps en fait. Voilà, les pêchers ils fleurissent assez tôt. Et du coup, si on a des gels de printemps, genre en avril par exemple, ça peut geler les fleurs ou les fruits des pêchers et compromettre la production, quoi.
Donc vous disiez les pommes, les pêches,
Les poires, les prunes, le raisin de table, des figues.
Ouais, donc ça, ça permet de couvrir une bonne partie de l'année, effectivement. D'autres ventes que la vente directe à la ferme des Roussets, par exemple ? En prévisionnel, bien sûr, pour les années à venir ?
Oui, donc l'idée, ce serait de vendre dans les épiceries locales, les épiceries du Royan-Vercors. Faire aussi une vente sur place, dans le verger, avec ponctuellement de l'autocueillette sur certains créneaux, peut-être pas de manière systématique, mais en fonction des espèces. Donc voilà un petit peu mes créneaux. Et après, en fonction de comment j'arrive à écouler ça, faire des marchés soit à Saint-Marcellin ou au marché de producteurs, voire des magasins de producteurs, quoi.
Et l'autocueillette, il n'y a pas de risque d'abîmer l'arbre, par exemple, sur certains fruits, certains fruitiers ?
Alors, quand ils sont jeunes, peut-être. Après, je ne pense pas. Par contre, abîmer les fruits, oui. Par exemple, sur de la pêche, en fait, quand on cueille la pêche, il ne faut pas la toucher avec les bouts des doigts. Sinon, ça marque. Donc, si elle n'est pas mûre et qu'on fait ça, ça marque. Et après, le fruit va pourrir plus facilement. C'est pour ça que l'autocueillette, c'est pas si simple, en fait, que ça. Ça dépend de, voilà, ça dépend des espèces. Et voilà.
Donc là, on a fait un petit panel de ce que vous pouvez proposer pour le verger de fruits, la pépinière. Donc là, on ne l'appelle pas un verger, c'est une pépinière d'arbres fruitiers. Comment s'organise-t-il ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Donc, du coup, je produis des arbres fruitiers, principalement pour les particuliers ou les petits professionnels comme les maraîchers, enfin petits professionnels en termes de nombre de plants qu'ils désirent. Donc, j'essaye de proposer à peu près tout ce qui se fait de manière classique en arbres fruitiers. Donc pommes, poires, prunes, cerises, figues, nachis, plaques miniers, raisins, petits fruits, amandiers, abricotiers.
Plaques miniers ?
Plaques miniers, c'est des kakis en fait. C'est le nom de l'arbre et le kaki, c'est le fruit en fait. Voilà.
Et ces arbres en pépinière, vous les vendez donc aux particuliers ? Sous quelle modalité ?
Alors donc...
Au particulier, vous l'avez bien dit, aux petits producteurs aussi.
Oui, enfin aussi aux professionnels. C'est juste que je ne peux pas, enfin les arboriculteurs qui plantent 10 hectares et qui ont besoin de 10 000 plants, moi je ne peux pas fournir parce que voilà, je n'ai pas un gros volume. Donc si la production de fruits, c'est vraiment très très local, la pépinière, c'est, mon public, mes clients potentiels, c'est plutôt la région. Parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qu'on achète de manière moins récurrente que des fruits. Voilà. Et donc les modalités pour c'est directement sur place à la pépinière, plutôt sur rendez-vous parce que je suis pas forcément j'ai pas un magasin où je suis vu que je suis souvent sur le terrain. Et après je fais aussi des foires spécialisées sur l'arbre, donc en général c'est octobre, novembre, décembre, des foires on va dire en dromisère que je fais quoi.
Et livraison possible ?
Oui, et livraison possible aussi, ouais. Ouais. Donc du coup, je livre aussi dans toute la France. Donc c'est un petit peu plus que la région, quoi.
Bon, on le redira en fin d'interview, mais vous disposez d'un site internet où on retrouve toutes ces informations. Un très joli site qui s'appelle donc Pépin et Compagnie, mais on y reviendra. Alors, il y a quand même eu 2 années consécutives de grêle dans le Royan. Comment se portent votre pépinière et votre verger ?
Alors, j'ai pris 2 fois la grêle de manière très très sévère. En fait, j'ai 2 parcelles qui sont pas au même endroit à Saint-Laurent. Donc, on va dire pour résumer, il y en a une, c'est le verger, et l'autre, c'est la pépinière. L'année dernière, il y a à peu près tout qui a pris, mais plus le verger que la pépinière. Et cette année, c'est l'inverse, quoi. Donc, cette année, la pépinière a été ravagée et le verger, il était moins touché. C'est-à-dire qu'il y a eu de la grêle, ça a impacté les fruits, donc il y en a beaucoup qui ont pourri. Mais le bois des arbres dans le verger n'a pas été trop impacté, quoi. Mmh. Alors que dans la pépinière, en fait, il n'y a plus d'écorce sur une grande partie des plants, quoi.
Et donc, automne 2020, concrètement, cette année, qu'est-ce que vous proposez ?
Alors, cette année, en fait, il n'y a que des figuiers et du raisin de table. Parce qu'en fait, du coup, j'ai recépé mes arbres juste après la grêle.
Recépé ?
Donc, recépé, c'est que j'ai retaillé le plus bas possible pour qu'il y ait le moins de traces de grêle, d'impact de grêle. Pour avoir une pousse qui est saine, en fait. Donc les figuiers, ils ont bien réagi à ça. Le raisin de table aussi. Les autres arbres qui sont greffés, le problème, c'est que la grêle, elle avait impacté aussi le porte-greffe, donc c'est-à-dire la partie racinaire qui héberge la variété. Et du coup, je ne pouvais pas recéper en dessous du point de greffe. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que la plupart de mes arbres, en fait, ils sont ils sont invendables cette année, quoi.
Le raisin, quelle période pour le planter là? On est déjà dans la période début novembre?
Alors, pour la plupart des arbres fruitiers, c'est à partir de fin novembre qu'on plante. Donc, on dit en général la Sainte-Catherine, là, c'est vers le 25-26 novembre. Voilà, donc c'est la date à partir de laquelle on peut planter. Et ça correspond au moment où les arbres, ils ont perdu leurs feuilles, en fait.
Et oui, parce qu'il faut le préciser aussi, votre spécificité, mais finalement qui n'en est pas une quand on est pépiniériste, il me semble, vous me corrigez si je me trompe, c'est de vendre les arbres à nu.
Oui, des arbres racines nues, on appelle ça. Donc en fait, par opposition au plan qu'on fait en pot. Donc du coup, c'est des arbres que j'élève en pleine terre, que j'arrache au moment des ventes. S'il y a encore des feuilles sur l'arbre, ça fait qu'ils continuent à respirer quand je les arrache, ils se déshydratent, quoi. Et en plus, dans les feuilles, il y a une partie de la réserve de l'arbre pour l'hiver qui va migrer dans l'écorce. Et que si on enlève les feuilles, du coup, on prive une partie des réserves pour l'hiver, en fait.
Revenons un petit peu sur le verger, on pourra revenir sur la pépinière hein, plus tard si vous le souhaitez. Comment s'organise votre verger?
Alors déjà, il me tenait à cœur de planter le verger de A à Z pour pouvoir l'aménager comme je veux, à la fois au niveau des variétés et puis des différents aménagements que je pouvais faire pour contribuer à réduire tout ce qui est bioagresseur, enfin tout ce qui va pouvoir... soit venir piquer les fruits, ou voilà, tout ce qui est maladie ou problème de ravageur, donc cet insecte qui vient détériorer les fruits. L'idée, c'est déjà d'avoir pas mal de diversité au niveau fruitière, pour mélanger un petit peu tout ça, que ce soit pas 10 hectares de golden, par exemple, qui, du coup, qu'on comprend facilement, c'est beaucoup plus compliqué à gérer au niveau ravageur. Ensuite, donc, avoir pas mal de variétés différentes, à la fois pour la même raison, mais aussi pour la partie vente, pour pouvoir vraiment avoir une gamme tout au long de la saison. Et un des points clés pour moi, c'est le choix génétique des variétés, pour qu'ils soient peu sensibles aux maladies et aux ravageurs, mais dans une moindre mesure. Et donc ça, c'est, on va dire que c'est un petit peu la base. Et ensuite, des aménagements qui vont permettre d'héberger de la biodiversité. Pas biodiversité pour biodiversité, mais biodiversité qui est que j'ai essayé de cibler en fait par rapport au ravageur potentiel des arbres fruitiers. Donc notamment un ravageur important, c'est le puceron, que ce soit sur à peu près toutes les espèces. Du coup, j'ai planté une haie tout autour du verger. Donc là, il y a à peu près 500 mètres linéaires, il y a à peu près un arbre tous les mètres, enfin arbre ou arbuste. Donc je ne vais pas tout solliciter, mais il y a pas mal de diversité. Et donc l'objectif, c'est par rapport aux pucerons, c'est d'avoir des arbres qui hébergent des pucerons très très tôt en saison, comme par exemple le sureau, qui va démarrer très très tôt dans la saison, avant les arbres fruitiers, qui va se charger en pucerons, mais c'est pas les mêmes pucerons que sur le pommier par exemple. Donc c'est-à-dire qu'il va y avoir des cortèges d'auxiliaires, type coccinelle, cirfe, etc., qui vont venir manger dans le sureau, enfin les pucerons du sureau, et du coup ce cortège d'auxiliaires, il sera déjà là, avant que les pucerons des pommiers soient là. Et du coup, on a un réservoir d'auxiliaires potentiels pour le verger. Alors, c'est pas magique, ça va pas tout résoudre, mais c'est des petits trucs qui font que ça limite un petit peu, ça régule un petit peu les ravageurs.
Et depuis quelques années, on entend parler d'un ravageur qui est en train d'arriver sur notre territoire, qui est déjà arrivé d'ailleurs, la Suzuki. Comment gérez-vous la Suzuki? Est-ce que vous avez déjà été attaqué par ce petit moucheron?
Donc la Suzuki, c'est une mouche là, qui vient pondre dans les fruits. Donc principalement c'est cerises et petits fruits, un peu raisin et un petit peu figue aussi. Donc en cerise, c'est très très compliqué en fait. Soit on met des filets, soit on plante plus de cerisiers. Ou alors, ce que j'ai choisi comme option, c'est de planter pas beaucoup de cerisiers, de planter que des cerises précoces. Et le fait de planter de la cerise très précoce, en fait, ça limite le nombre de générations et j'ai anticipé comme ça.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Vous avez évoqué le fait que vous avez donc plus ou moins deux terrains de travail, un côté plus ou moins verger, un côté plus ou moins pépinière. Combien de surfaces agricoles avez-vous? Vous travaillez sur quelle surface?
Alors, il y a à peu près, on va dire, 2 hectares de verger. Et, à la pépinière, c'est un petit peu dur à dire parce que ça tourne tout le temps, mais un demi-hectare, on va dire, de pépinière.
Et vous avez bien parlé donc de la haie qui entoure le verger, avec des espèces qui du coup peuvent permettre aux espèces fruitières de bien se développer. Mais au sein des plantations vraiment fruitières, vous alternez les plantations ou vous avez quand même des carrés, des terrains où vous avez une espèce?
Alors, donc au début, je voulais tout mélanger en fait. Et assez rapidement, en me confrontant à la réalité professionnelle, je me suis rendu compte que c'était un petit peu une utopie, en tout cas au niveau professionnel, que c'était vraiment pas pratique et qu'il fallait quand même rationaliser un petit peu les choses. Donc j'ai mélangé les variétés au sein de mes carrés, au sein d'une même espèce. Par contre, j'ai essayé de quand même que ça soit bien organisé. Et au lieu de mélanger entre les arbres, ce que j'ai fait, c'est que au niveau, bon déjà j'ai mis un peu des nichoirs mésanges et des abris à chauves-souris un petit peu de partout dans le verger, et j'ai mis des plantes grimpantes. Donc j'ai des poteaux de palissage, donc j'ai commencé à mettre des plantes grimpantes sur les poteaux de palissage. Donc là j'ai du chèvrefeuille. J'ai essayé de faire du lierre, j'ai pas encore réussi, c'est bizarre, mais en fait ça prend doucement au début, après rapidement. Au niveau de chaque début de rangée, de côté sud, là, j'ai planté aussi des noisetiers, des sureaux, etc. En début de rang, en plus de la haie. Et après, ce que je fais aussi, c'est que là, j'ai semé, on pourra aller voir, mais au pied des arbres, en fait, en septembre, là, j'ai semé des engrais verts, mais à vocation biodiversité, en tout cas, par exemple, j'ai semé de la févrole. La févrole, donc, c'est une légumineuse qui va... au niveau agronomique, qui va me restituer de l'azote au printemps quand je vais... parce que voilà, elle contient pas mal d'azote. Et c'est le même effet un peu que le sureau, c'est-à-dire qu'en fait, la févrole, elle va héberger des pucerons très très tôt dans la saison, qui sont pas les mêmes que les pommiers, et du coup, ils vont vraiment être en dessous de mes pommiers, ça, ces plantes. Donc voilà, ça c'est côté un peu biodiversité, et après, entre mes arbres fruitiers, j'ai aussi semé des engrais verts, à la fois pour améliorer le sol et puis à la fois pour ce côté biodiversité. Quoi.
Les nichoirs, mésanges, chauves-souris, est-ce qu'on peut préciser l'intérêt?
L'intérêt, oui, bah en fait l'intérêt c'est que donc, les chauves-souris elles raffolent des insectes, donc voilà, ça me permet de réguler un petit peu tout ce qui est insectes sur le verger. Les mésanges, les oiseaux en général, mais là c'est plutôt orienté mésange en fait. En fait, ça dépend du trou, du diamètre du trou du nichoir qui permet de sélectionner. Ça permet de manger à la fois des insectes, comme par exemple des papillons qui vont pondre dans les fruits, mais aussi tout ce qui est chenilles en fait. Donc chenilles qui viennent défolier, donc manger les feuilles ou les fruits. Quoi.
On va la voir cette févrole ?
On va la voir. Voilà, ça c'est de la févrole qui a été semée. Qui a été semé en fin septembre à peu près. Qu'est-ce que je
peux faire ? Pas mal de champignons.
Ouais, il y a pas mal de champignons. En fait, ce que je fais aussi pour agrader le sol, c'est que j'épands du broyat de bois en fait. Et ça va développer tout ce qui est champignons en fait du sol et ça va améliorer la structure du sol en fait.
Et à l'entrée du verger, on a des drêches, alors qui viennent de la brasserie de la machine.
Oui, donc du coup. C'était issu de leur premier brassin. Et là, l'idée, c'est d'épandre ça aussi sous les arbres fruitiers pour nourrir un peu toute la faune du sol. Quoi.
Puis ça sentira bon dans le verger.
Oui. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est introduire des animaux en fait, dans le verger. Alors pas forcément à but, enfin pas du tout à but d'élevage, en tout cas pas pour moi, avec un objectif d'amener un petit peu de vie tout court dans le verger pour le plaisir, mais également pour tout ce qui est aussi régulation des ravageurs, donc par exemple comme tout ce qui est volaille qui va venir gratter et manger un petit peu tout ce qui vient nicher dans le sol, et donc du coup passer des volailles à l'automne ou en hiver, ça permet de limiter un petit peu l'inoculum de parasites qui sont au sol, comme par exemple le carpocat qui vient pondre dans la pomme ou la noix, mais aussi des brebis qui peuvent venir pareil manger les pommes qui sont à terre, qui sont véreuses, etc. Et aussi participer à la fertilité générale du sol, puisque ça va venir aussi fertiliser le sol. Ça peut être soit en partenariat avec des éleveurs, soit moi qui en prendrais, mais du coup moins. Voilà. J'attends encore un ou deux ans que les arbres soient un petit peu plus grands pour pas qu'ils soient qu'ils puissent être trop abîmés par les animaux. Quoi.
Et est-ce que les brebis permettraient aussi de tondre ? Est-ce que c'est important que les herbes au sol ne soient pas trop hautes, peut-être pour la récolte ? Ou de toute façon, les fruits sont cueillis au sol quand les fruits sont tombés, vous ne les vendez plus?
Moi, au contraire, j'essaie de laisser pousser l'arbre au maximum pour plusieurs raisons. Donc, la première raison, c'est plus ça pousse, plus ça fait de volume de végétation à la fois aérienne et racinaire, et plus ça enrichit le sol, quoi. Donc au niveau agronomique, c'est super important. Voilà, du coup, si vous venez au printemps, vous verrez, c'est un peu la forêt vierge. Donc là, je ne parle pas sous mes arbres, hein, mais entre mes arbres, etc. Et en plus, ça a un côté bénéfique pour tous les auxiliaires, parce qu'il y a des fleurs de partout. Même s'il n'y a pas des fleurs, vous verrez, il y a plein de monde. Après, sous mes arbres, c'est un petit peu différent, parce que sous mes arbres, c'est des jeunes arbres. Donc si on laisse trop d'herbe, en fait, il y a concurrence au niveau hydrique et au niveau de tout ce qui est nutrition. Surtout quand les arbres sont jeunes. Donc là, par contre, je laisse pas l'herbe trop s'exprimer au pied des arbres, quoi.
Et alors, Rudy, autre chose que vous proposez à Pépin et compagnie sont des stages et des prestations, notamment de greffe et de taille. Alors là, c'est-à-dire qu'on peut venir apprendre chez vous, vous allez chez les particuliers, comment ça se passe?
Alors du coup, ça s'organise en journée, voilà, c'est une journée dédiée à une thématique comme la greffe. Donc ça peut être soit la greffe d'été, on a fait des stages au mois d'août, ou au printemps en avril. Et sinon aussi des stages sur la taille des arbres fruitiers. Donc là, l'idée pour la partie greffe, en fait, c'est qu'on allait chez quelqu'un qui avait pas mal de terrain avec plein de porte-greffes sauvages, donc il y avait un grand terrain. Et donc le matin, on faisait une partie théorique, et l'après-midi, en fait, les participants, ils venaient greffer sur des arbres sauvages chez cette personne-là, quoi. Voilà. Et pour la partie taille. Pour la partie taille, en fait, donc on va s'organiser un petit peu de manière similaire, c'est-à-dire que, enfin, je pense proposer deux formats, c'est-à-dire il y aura une journée où ça sera théorie le matin et pratique l'après-midi, mais probablement dans mon verger pour voir un petit peu comment je gère les choses, et éventuellement chez un particulier, et une deuxième partie où ça sera vraiment juste en moins nombreux, on sera peut-être 4 participants. Et là, on va directement tailler chez les participants. Donc, on va passer 2 heures chez chaque personne. Et ces personnes, donc, l'avantage, c'est qu'elles peuvent... Enfin, du coup, on va tailler chez elles. Donc, elles ont résolu un peu leur problématique, on va dire. Mais elles vont apprendre aussi en allant voir les autres personnes, quoi. Mais du coup, ça, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Il faut qu'on soit dans un rayon géographique assez proche. Mais voilà, il y a déjà du monde qui est intéressé par ce genre de trucs. Moi, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, c'est une personne qui m'a proposé à la base de... Il y avait deux amis intéressés, du coup, elles m'ont proposé de faire ça, d'assister à la taille chez qui m'avait demandé en prestation chez son ami. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bref, on va carrément faire des journées comme ça. Et voilà.
Et donc là, il y a des journées prévues, on peut encore s'inscrire? Il faut aller voir votre site?
Bah, là, du coup, les journées... Bon, pour l'instant, il n'y a pas de journée prédéfinie. Ça va venir après, faut voir aussi avec le confinement. Donc je pensais commencer en décembre, mais ce sera peut-être qu'en janvier. Mais en gros, ça sera pendant le créneau décembre à février, donc c'est le moment où on peut commencer à tailler les arbres. Donc on commence, voilà, à partir du moment où il n'y a plus de feuilles sur les arbres. Voilà, et donc du coup, pour s'inscrire, faut soit me téléphoner, me passer un mail, et puis je vous inscris sur la liste, et puis après je vous tiens au courant des dates qui se précisent.
Et justement, toutes ces infos sont à retrouver sur le site internet de Pépin et compagnie avec une adresse mail contact@pepin-et-compagnie.fr. Donc sur votre site internet, donc Pépin et compagnie, toutes les informations des variétés que vous proposez, les tarifs, où vous vous trouvez, etc. Très joli site avec une vidéo aussi de Jean-François de Royon TV. Merci beaucoup Rudy Magne pour toute cette présentation. À bientôt, peut-être au printemps.
Ça marche, ben merci bien Anne, à bientôt.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.